Merci d'écouter RFI, mardi 31 décembre 2024. Il est 22h en temps universel, à Paris, 23h.
24h en France.
Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité française. Prenez place, on est ensemble pour la prochaine demi-heure.
Mathis Limano.
Et plus qu'une heure avant que la France ne passe en 2025, bon réveillon à toutes et à tous, que vous soyez seul, entre amis ou en famille. Dans une poignée de secondes, on est sur les Champs-Élysées, traditionnel lieu de rassemblement pour le passage à la nouvelle année. Lou Ecal nous attend. Également au sommaire, les vœux d'Emmanuel Macron, crise politique en France, conflit dans le monde, appel à l'unité dans le pays et entre les Européens. Le chef de l'État s'est exprimé dans une courte allocution d'une dizaine de minutes, on y revient dans ce journal. Demain, 1er janvier 2025, les premiers changements, notamment la réforme du RSA, témoignage à suivre d'une bénéficiaire clairement opposée. Et puis les skippers du Vendée Globe fêtent le nouvel an seul. Alors en fin de journal, on va porter compagnie à la Benjamine, Violette d'Orange. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus.
RFI.
Et je vous le disais en titre, des milliers de fêtards présents sur les Champs-Élysées pour fêter la nouvelle année. Lou Ecal, vous y êtes pour RFI. Comment est l'ambiance ?
Eh bien écoutez, l'ambiance est super. Hein. Les Champs-Élysées sont noirs de monde. Il fait très froid, mais ça n'a arrêté personne ce soir. Tout le monde a sorti sa doudoune, son bonnet ou son écharpe. Et puis, hein, c'est la chaleur humaine qui aide aussi à tenir. Sur les champs, on voit de tout. Il y a des familles, des groupes de jeunes, des retraités. Et surtout, on croise beaucoup de touristes étrangers, certains qui viennent même pour la toute première fois à Paris et qui ne voulaient surtout pas louper le nouvel an sur les Champs-Élysées. Il y a un touriste espagnol qui me disait tout à l'heure à quel point c'était super d'être entouré de gens avec des cultures si différentes. Alors voilà, sur les champs, ça chante, ça danse. Les gens se prennent en photo devant l'Arc de Triomphe. Ils appellent leurs proches aussi avec un peu d'avance pour leur souhaiter la bonne année. Les concerts s'enchaînent depuis tout à l'heure. On a eu du Maître Gims, du David Hallyday. Et puis voilà, dans moins d'une heure, il y aura donc le compte à rebours, suivi d'un feu d'artifice, un moment que la foule attend avec beaucoup d'impatience.
Merci Lou Ecal en direct des Champs-Élysées. Je vous fais confiance pour célébrer la nouvelle année avec modération, en ayant une pensée ce soir à toutes les bouteilles de champagne sabrées avec plus ou moins de succès. La période des fêtes qui fait du bien à la filière dans un contexte de recul des ventes. Mais malgré des mauvais chiffres, Agnieszka Kumor, le millésime 2024 s'annonce très prometteur.
En 2024, les vignerons champenois l'assurent, le raisin était exceptionnel. Mais il faudra attendre 18 mois pour goûter les fameuses bulles. Ce cru prometteur sera toutefois plus rare, car la récolte a été moins importante qu'attendue en raison des aléas climatiques. Si le champagne reste la boisson star des fêtes, les ventes sont en revanche en recul, avec 210 millions de bouteilles vendues, la région se dirige vers une baisse de 10% comparée à 2023. À cause de l'inflation, une partie des consommateurs, notamment en France, boude le champagne devenu trop cher. Ils lui préfèrent notamment le Prosecco. Des pertes compensées partiellement par les ventes à l'export, qui devraient porter le chiffre d'affaires à 5,8 milliards d'euros. L'explosion des prix s'explique par une forte augmentation des coûts de l'électricité et de bouteilles en verre. La valse des étiquettes devrait se poursuivre en 2025 sur fond de montée en gamme globale des vins de champagne.
Agnieszka Kumor, c'est la tradition. À chaque Saint-Sylvestre, le président français a présenté ses vœux pour l'année à venir. Après une année très compliquée sur le plan politique, Emmanuel Macron est revenu sur la dissolution du 9 juin en faisant une forme de mea culpa. Il a reconnu que sa décision avait apporté davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Raphaël Delvolvé, le président bien conscient de ne plus avoir toutes les cartes en main, a voulu montrer qu'il servait encore à quelque chose et même qu'il gardait du pouvoir.
Un peu plus de 10 minutes, Emmanuel Macron n'avait jamais fait aussi court pour des vœux. Le temps pour lui d'appeler les forces politiques à l'adoption d'un budget, à assainir les finances publiques et à trouver des compromis pour assurer la stabilité du pays. Sans possibilité d'impulser de grandes orientations politiques en raison de sa dissolution, le président est certes surtout un garant mais conserve des domaines réservés, la politique étrangère et militaire, d'où un long passage sur l'Europe qu'il appelle au réveil, à sortir de la naïveté et à se prendre en main sur sa sécurité, en référence aux menaces russes, à la guerre au Proche-Orient, mais aussi à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Emmanuel Macron a également rappelé qu'il lui restait des pouvoirs. En 2025, il assure vouloir demander aux Français de trancher des sujets déterminants. Annonce-t-il par là un ou des référendums, affaire à suivre. On notera également une innovation sur la forme. L'allocution a débuté sur des images avec la voix du président en fond. Des images de succès français en 2024, les Jeux Olympiques, Notre-Dame de Paris ou encore l'inscription de l'IVG dans la Constitution, comme pour donner, ou plutôt essayer de donner de l'espoir à une France plongée dans une crise politique inédite.
L'allocution du président qui n'a pas fait illusion dans l'opposition, notamment chez les écologistes. Aminata Niakate, la porte-parole des Verts, et pour elle, le président ne propose aucune solution pour les 2 ans et demi de mandat restant.
J'ai le sentiment qu'il propose pas vraiment de solution, donc il propose une consultation, donc peut-être un référendum en 2025. Voilà, on a déjà connu les grands débats, on sait que ça finit un petit peu en autre boudin, donc je suis pas très optimiste. D'accord. J'ai un peu peur des sujets qu'il n'annonce pas. Donc, ça peut être sur l'immigration par exemple, parce qu'il y a une espèce d'obsession sur la question migratoire dans le gouvernement depuis un certain temps, et les nominations qui a eu lieu au sein des différents gouvernements aussi ne sont pas tout à fait rassurantes sur la matière. Finalement, je ne pourrais pas dire quel jalon il pose sur les 2 ans de mandat qui lui restent.
Aminata Niakate, porte-parole écologie, les Verts, invités de notre édition spéciale ce soir. Et puis, après le Tchad, les forces françaises persona non grata en Côte d'Ivoire. Décision du président il y a quelques instants. Alassane Ouattara demande leur retrait au Sénégal. Ce sont toutes les forces étrangères qui doivent partir le 28 novembre. Bassirou Diomaye Faye avait déjà exigé le retrait des troupes françaises. Une déclaration qui coïncide avec celle des autorités ivoiriennes.
24 heures en France.
Et moins d'une heure avant le passage à la nouvelle année en France, 2025, et son lot de changements, notamment le fonctionnement du RSA, le Revenu de Solidarité Active. Dès le 1er janvier, chaque bénéficiaire sera automatiquement inscrit sur les listes de France Travail et devrait effectuer chaque semaine 15 à 20 heures d'activité obligatoire ou de formation. Julie a 20 ans, elle vit à Nantes, auxiliaire de la petite enfance, elle perçoit le RSA depuis 2018 et elle est farouchement opposée à cette réforme, Laurence Théo.
Seule avec 2 enfants à charge, Julie, 50 ans, vit avec le RSA, Revenu de Solidarité Active, soit 565,50 € par mois. Elle répond d'emblée à ceux qui pensent qu'elle profite du système.
Je veux dire, on profite de rien avec 600 € par mois, c'est pas possible. C'est valorisant pour personne d'être chez soi, sans contact social, à toucher 500 ou 600 balles par mois.
Pour Julie, la réforme ne tient pas compte du profil des bénéficiaires du RSA. Ce n'est plus une aide, mais une sanction.
On n'est jamais au RSA par choix. Et le premier truc, selon moi, qu'il faut réacquérir pour se réinsérer, c'est de l'estime de soi et c'est de la dignité. Donc, par la contrainte, je ne sais pas si on récupère quelque chose, qu'on mette en place un accompagnement pour mieux comprendre où la personne se situe et quels sont ses besoins, oui, mais qu'on oblige à une activité qui serait en fait du salariat déguisé, je suis complètement contre.
D'ailleurs, la quinquagénaire envisage de renoncer à ses droits au risque de sombrer encore plus dans la précarité.
Laurence Théo, les Français et leurs déchets à présent. Depuis exactement 1 an, tous les Français sont censés avoir accès à un point de collecte pour trier facilement leurs déchets verts. Il s'agit des restes de repas ou de jardinage. L'objectif de la mesure, en faire du compost ou du gaz, plutôt que de les brûler ou de les enfouir. L'enjeu est aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisque le secteur des déchets en est responsable de 4%. Il s'agit d'une obligation européenne, mais en France, elle peine à se mettre en place. Reportage de Marie Leveugle.
Près du marché Daumesnil à Paris, cela fait quelques semaines que 2 grands bacs bruns ont été installés sur le trottoir. Dessus, on peut lire « Mes déchets alimentaires, je les trie ». Il existe 600 points de collecte comme cela dans la capitale, mais les Parisiens n'ont pas encore pris l'habitude de s'en servir. En témoigne Benjamin, pourtant soucieux des questions écologiques.
Je les ai utilisés une fois. Disons que voilà, j'ai pas pris l'habitude et il faut que je pense au petit sac, il faut que j'organise ma sortie, où est-ce que je vais aller. Si ça passe pas au bon endroit, je me retrouve avec mon petit sac. Enfin bon, c'est aussi à nous de changer de comportement, donc c'est une initiative sympa.
Même si c'est obligatoire depuis janvier 2024, en juin encore, plus de 60% des Français n'avaient toujours pas accès à une solution de tri comme celle proposée à Benjamin. Pour Manon Richet, de l'association Zero Waste France, les collectivités territoriales, qui sont chargées de la gestion des déchets, ne sont pas suffisamment accompagnées.
Il y a un problème de financement pour les collectivités territoriales. Il y a notamment le fonds vert qui a beaucoup diminué et qui permettait de financer à la fois l'installation d'infrastructures et qui devrait aussi permettre tout ce qui est accompagnement au changement.
En moyenne, 80 kilos de déchets verts finissent chaque année dans les poubelles individuelles des Français. Avec le retard accumulé par la France cette année, l'association Zero Waste France estime que ce sont 5 millions de tonnes de biodéchets qui n'ont pas été valorisés en 2024.
Un reportage RFI, Marie Leveugle. Et puis on prend des nouvelles du Vendée Globe. Charlie Dalin devançait toujours Johan Richomme au pointage de 19h. Ils sont encore 35 skippers en course, un tour du monde en solitaire et sans escale. Alors ils célèbrent le nouvel an à leur manière, comme Violette d'Orange, la Benjamine de cette édition. Elle est actuellement dans l'océan Pacifique et se rapproche du point Nemo, un point imaginaire, c'est le plus éloigné de toute Terre. Elle fait donc le nouvel an seule, une première pour la navigatrice de 23 ans.
Bon, bah cette année, je vais passer le nouvel an toute seule pour la première fois de ma vie. Et en plus, je crois que je passe le point Nemo à minuit et quelques, minuit 10, quelque chose comme ça. Donc c'est le premier du 25, 2025. Donc c'est assez fou. Je suis pas trop triste en réalité de rater la fête à terre parce que je vis quelque chose d'incroyable et je suis trop contente. Belle année à tous et à bientôt.
Et belle année à vous aussi, Violette, et bon courage, Violette d'Orange, qui pointe à la 26e place au classement. Elle atteindra le Cap Horn dans un peu plus d'une semaine. Voilà pour la première partie, restez avec nous sur RFI.
24 heures en France, Mathis Limano.
Et à l'ère des effets spéciaux toujours plus sophistiqués, des scénarios grandiloquents, notre invité culture ce soir nous rappelle qu'un simple coup de crayon suffit parfois à raconter une belle histoire. Cette histoire, c'est celle de Samuel, 10 ans. Samuel ne vit rien d'exceptionnel, il va à l'école, traîne avec ses copains, tombe amoureux. Un quotidien somme toute banal pour un enfant de son âge, mais d'une sensibilité bouleversante. D'un simple trait noir sur fond blanc, Samuel, la série animée, a déjà séduit 18 millions de spectateurs. D'abord diffusée sur les plateformes numériques de la chaîne Arte, et face à un tel succès, Samuel débarque à la télé, toujours sur Arte, 21 courts épisodes de 5 minutes chacun, qui nous rappellent que l'enfance est un trésor universel. Derrière Samuel, Émilie Tronche, la réalisatrice et scénariste et notre invitée culture. Avec Sophie Torlotin.
Émilie Tronche, bonjour.
Bonjour.
Samuel a 10 ans et tient son journal. Et avec lui, vous racontez les 1000 bonheurs et soucis d'un enfant. Il vient d'où, Samuel? Est-ce qu'il vient de vos souvenirs, vous qui aviez 10 ans en 2006, qui est à peu près l'époque de la série?
Ouais, il vient de mes souvenirs totalement. Il grandit dans la même ville où moi j'ai grandi. Il va dans la même école, le même collège. Donc voilà, ouais, j'ai construit son univers à partir de mes souvenirs.
Mais comme elle écoutait fort, j'ai capté qu'elle écoutait Dire Straits et moi, c'est mon deuxième groupe préféré après ABBA.
Alors Samuel danse pour évacuer ou exprimer ses émotions. C'est un petit garçon qui porte un regard assez mélancolique sur le monde. On n'est pas dans l'insouciance.
Oui, il sourit pas beaucoup, par exemple. Il esquisse de temps en temps un petit sourire, mais c'est le maximum. Et c'est ça, il a un regard assez mélancolique et en même temps un peu insouciant et nonchalant. Il vit sa vie, quoi. Et puis, il tombe amoureux et il est bouleversé par beaucoup de choses. Et voilà, donc il a besoin d'écrire dans son journal tout ce qui lui arrive. C'est très important pour lui.
Et il échappe aux stéréotypes de genre.
Ouais.
Il ne fait pas partie des populaires de la cour de récré.
Non, pas forcément. Et en même temps, il a un petit côté un peu cool. C'est vrai, je voulais pas forcément l'identifier à un stéréotype de la cour de récré. Même voilà, au niveau du genre, je sais que je voulais pas gommer sa part de féminité, puisque voilà, je l'écris moi en tant que femme et avec mon regard de peut-être aussi de petite fille de 10 ans. Donc voilà, je voulais mêler un peu tout ça dans son personnage.
Tu vois, Jean de La Fontaine, bah on a fait théâtre en classe et on devait jouer le corbeau et le renard. La maîtresse, elle a mis carrément narrateur, moi corbeau et la grande jolie renard. Être corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un
Émilie
fromage.
Tronche, Samuel, au départ, vous l'avez conçu pour vous. Vous ne l'avez pas imaginé en série, vous ne l'aviez pas au départ préalablement vendu à une chaîne.
Ouais, totalement. Je faisais vraiment ça pour moi. Le premier épisode, je l'ai fait toute seule, sans me poser de questions. Je ne pensais même pas en faire une série, rien du tout. J'ai juste posté sur les réseaux sociaux. Petit à petit, avec les retours et tout, ça a donné envie d'en faire une série. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était vraiment pour moi et mes proches.
On a l'impression, avec cette série, que vous retrouvez aussi l'enfance de l'animation, avec ce trait noir faussement simple sur fond blanc. Vous vouliez aussi retrouver cette spontanéité du trait propre à l'enfance.
Oui, au début, je voulais dessiner sans me juger. Je gardais même tous les dessins que je trouvais moches, je les gardais. Je voulais qu'il y ait ce bouillonnement qu'il y a quand on gratte sur son journal intime, qu'on écrit et qu'on jette ses pensées. Je voulais le retrouver dans mon dessin et dans Samuel et ce côté fait maison aussi qui me plaisait beaucoup.
Et du coup, c'est votre voix en fait, la voix de Samuel.
C'est ça, ouais. Ouais. Je fais aussi la voix des personnages, donc un projet très autocentré finalement.
Est-ce que, Émilie Tronche, vous avez déjà la suite? Parce que là, il y a 21 épisodes. Est-ce qu'il y aura une saison 2, 3? Est-ce que Samuel va grandir?
On y pense, ouais, j'y pense. Peut-être pour l'année 2025, commencer à travailler dessus, sur une saison 2. Pour l'instant, je travaille plutôt sur une bande dessinée avec un des personnages de la série. Et ouais, peut-être une saison 2. Et en tout cas, Samuel grandirait, c'est sûr. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de le voir évoluer, de le voir se confronter aux différents âges, ce que ça implique. C'est ça qui m'intéresse.
Émilie Tronche, merci.
Merci beaucoup.
L'invité culture, la réalisatrice et scénariste Émilie Tronche avec Sophie Torlotin. Samuel, la série animée pour tous les âges, c'est à voir sur la plateforme de vidéo à la demande d'Arte. Sur la chaîne télé, vous avez jusqu'au 13 janvier. Alors ne perdez pas de temps pour découvrir ou redécouvrir ce bijou d'animation.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Merci d'écouter RFI, vous êtes bien dans 24 heures en France, il est 23h16 à Paris. Et l'année 2024 s'achève dans un peu plus trois quarts d'heure avant de refermer un chapitre chargé en actualité en France. 2024 aurait été synonyme de séisme et de crise politique, mais pas que, car RFI poursuit sa rétrospective avec ce soir la parenthèse enchantée des Jeux olympiques comme paralympiques ont fait vibrer la France et le monde entier. Les performances de ces milliers d'athlètes nous ont tenus en haleine. Certains nous ont fait rêver, d'autres émus aux larmes. France 2024, l'année des Jeux, c'est avec vous Sylvie Coffi.
Inoubliable, incroyable, fantastique. Tout a commencé par une cérémonie d'ouverture exceptionnelle où les délégations sportives du monde entier ont paradé sur la scène.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Et la patrouille de France et un cœur rose au-dessus de Paris.
La pluie était de la partie, mais ça n'a pas gâché la fête. Tous ces chanteurs, ces bateaux sur la scène, c'était quelque chose d'unique.
Et pour moi, ces Jeux sont inoubliables. Il y a quelques mois seulement, on a failli basculer dans ça. Où la France était représentée comme un pays qui va finir dans la guerre, dans les émeutes urbaines. Et là, ce pays, pendant deux semaines, il s'est uni avec sa population, avec sa diversité, avec sa tolérance, avec son amour.
Et des exploits sportifs comme ceux de Léon Marchand avec 4 médailles d'or, un super-héros des bassins.
Mais Léon Marchand est en train de revenir, il accélère, les 10 derniers mètres sont absolument fantastiques pour Léon Marchand qui est champion olympique, Léon Marchand phénoménal.
C'est un truc de fou, je sais pas, je vais mettre beaucoup de temps à réaliser, je fais 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques chez moi. Je sais que c'est beaucoup de travail, ça vient de toutes les heures d'entraînement que je passe.
Autre championne, Aurélie Aubert, aux Jeux paralympiques, décroche l'or dans sa discipline, la boccia.
En fait, je viens de réaliser que je suis championne paralympique. Avant, je ne réalisais pas. C'est incroyable.
Du beach volley au pied de la Tour Eiffel, de l'équitation à Versailles, ces épreuves se sont déroulées sur des sites inoubliables. La magie s'est opérée aussi au Grand Palais, métamorphosé pour ces Jeux, où l'Ivoirien Cheikh Cissé a décroché la médaille de bronze au taekwondo.
Il fallait à tout prix avoir un bout de la Tour Eiffel avec soi. C'est la médaille de la jeunesse, c'est la médaille de la Côte d'Ivoire et je suis très content.
Sur les sites ou derrière le petit écran, les supporters étaient nombreux à suivre les épreuves.
Moi, j'étais dedans, malgré que je travaille, etc. Mais ça arrive une fois par siècle, hein. 1924-2024. C'est un événement à pas rater, ça.
Que l'on retienne les 4 médailles de la gymnaste américaine Simone Biles ou le selfie des pongistes des deux Corées, chacun garde en mémoire une image inoubliable de ces Jeux.
Et il va falloir prendre son mal en patience pour que les Jeux reviennent en France 2030. Pour les Jeux d'hiver, ça se passera dans les Alpes. Merci de rester avec nous. Vous êtes bien sur RFI. Il est 19h à Mayotte, l'archipel déjà en 2025.
Le journal des Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, à la une, la prochaine rentrée scolaire à Mayotte. Elle ne sera évidemment pas comme les autres, mais elle se fera. Tel est le message délivré aujourd'hui par le maire de Mamoudzou. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Une rentrée particulière en 2025, forcément particulière, suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Chido. Écoutez Amdil Waïdou Soumaïla au micro de la première Mayotte.
Dès le lendemain de cette catastrophe, nous avons mis en place plusieurs cellules. Et parmi les cellules que nous avons mis en place, c'est une cellule diagnostiquée l'ensemble des bâtiments publics, y compris les écoles. Donc une cellule dédiée spécifique aux écoles, avec l'appui d'un réseau d'architectes et des bureaux d'études, qui nous a permis d'abord d'avoir aussi un premier élément de chiffrage, donc pour diagnostiquer la solidité, parce que faire revenir des enfants, des enseignants dans une école, dans un établissement public, nécessite aussi qu'on vérifie la solidité des bâtiments qui ont été fortement touchés, ce qui nous a permis globalement de voir que 13% des équipements, en tout cas à date, étaient quasiment intacts. 44% ont été endommagés, mais moyennement, et que les 44 autres totalement endommagés. Et à partir de ce diagnostic global, ça va nous permettre d'acheminer, en lien avec le rectorat, comment on prépare des rentrées scolaires, parce qu'il va y avoir des rentrées, il ne va pas y avoir une rentrée scolaire, il va y avoir des rentrées en fonction des états à la fois des groupes scolaires, des circonscriptions, des salles de classe. Donc tout là va être fait en lien avec le rectorat et en lien avec les parents d'élèves. On s'en sortira.
Après quelques heures passées à Mayotte, lundi, le Premier ministre, quant à lui, François Bayrou, a pris la direction de La Réunion avant de repartir ce mardi à la mi-journée pour Paris. Quelques heures, là encore, dans l'autre département français de l'océan Indien, mais quelques heures bien remplies, avec une visite à la base logistique d'où parlait de Vermayotte et une rencontre un peu plus tôt dans la matinée avec les élus de La Réunion. Écoutez d'ailleurs la présidente du conseil régional, Huguette Bello, au micro d'Anaëlle Doré-Samy.
Ces évacuations sanitaires qui demandent à ce qu'il y ait des moyens d'accueil pour les personnes arrivant malades, pour les soins de suite. C'est pour cela aussi que j'ai proposé au Premier ministre que l'hôpital Gabriel Martin, qui est désaffecté, soit utilisé pour ce que l'on appelle les soins de suite. Évidemment, on a parlé de l'école, de l'éducation. Mais l'éducation, il y a les familles, ce que le Premier ministre a dit hier soir dans son discours, les familles qui le désirent, enverraient leurs enfants dans l'Hexagone, dans d'autres familles. Tous ces problèmes ont été posés avec beaucoup de cœur par tout le monde. Et donc c'est ça que je souligne, parce que Mayotte a besoin que nos cœurs parlent. Mayotte a besoin que l'on reconstruise aussi.
Une bonne nouvelle pour terminer, une bonne nouvelle pour les étudiants Saint-Pierrais installés au Canada. La fin annoncée du tour du poteau n'aura aucun impact sur eux. Mais qu'est-ce donc que le tour du poteau? Écoutez les explications d'Isabelle Tomlin de la première Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le tour du poteau, c'est une stratégie courante au Canada. Cela consiste à traverser une frontière, celle avec les États-Unis ou celle avec Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire français, de passer quelques minutes sur place, puis de revenir au Canada pour accéder aux services d'immigration. Une stratégie utilisée par des milliers de résidents temporaires, détenteurs d'un permis d'études ou d'un permis de travail, pour le renouveler rapidement. Parmi les personnes amenées à pratiquer cette stratégie figurent les étudiants de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, l'annonce la semaine dernière de la suppression de cette possibilité a suscité d'importantes inquiétudes de la part des jeunes, mais aussi de parents de l'archipel. Or, la nouvelle est tombée en fin d'après-midi hier. Dans un communiqué, la préfecture a indiqué avoir pris contact avec les autorités canadiennes pour obtenir des précisions sur l'application de cette nouvelle règle aux résidents de Saint-Pierre-et-Miquelon et tout particulièrement aux jeunes poursuivant leurs études au Canada. La réponse est claire, je cite « Cette mesure n'aura aucun impact pour les étudiants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui pourront continuer à bénéficier de la facilité qui leur est accordée dans le cadre des accords de coopération régionale pour effectuer leur demande de permis d'études à un poste frontalier canadien, qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement ».
Fin de cette dernière édition de 2024. Bonne année 2025 à toutes et à tous.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée.
Abonnez-vous à RFI sur WhatsApp pour recevoir le résumé de l'info sur votre téléphone.
RFI, presque 23h25 à Paris.
Le Conseil Santé avec Sounou Assurance.
On retrouve Caroline Paré pour le dernier Conseil Santé de l'année. Et en cette soirée festive de Réveillon, vous nous parlez d'un reportage qui rappelle que certains n'ont pas la chance de fêter la nouvelle année comme il se doit.
Dans Priorité Santé tout à l'heure, on va vous retrouver, Charlie Dupiau, bonjour.
Bonjour.
Charlie, pour un reportage long format intitulé « Urgence face à la précarité ».
Oui, reportage au sein du SAMU social de Paris et sur 3 sites, rencontre avec les écoutants, les soignants et les bénéficiaires en attente d'un hébergement d'urgence, comme c'est le cas de Fanta, mère de 2 enfants de 3 et 1 an en grande précarité.
On appelle le 115, on n'a toujours pas d'hébergement. Moi, ça me fait trois mois bientôt que je suis en train d'appeler le 115 et toujours pas de solution d'hébergement. Ils disent que c'est saturé, ils n'ont pas de place et à chaque fois, il faut appeler. Donc, on appelle tous les jours, en espérant qu'on nous trouve une place. Mais t'es là-bas aujourd'hui, t'es ici demain, t'as même pas de situation fixe. C'est compliqué avec les enfants, c'est démoralisant, c'est stressant, c'est fatigant. Des fois, t'as envie de rien, des fois, t'es découragé. La peur, elle est là parce que vraiment, on a été dans la rue et on a vraiment peur encore d'y retourner.
Urgence face à la précarité. On retrouvera votre reportage, Charlie Dupiau, consacré au SAMU social, service d'orientation et d'hébergement d'urgence des populations vulnérables de la capitale, dépassées par les demandes.
Merci Caroline Paré, un reportage à écouter dans Priorité Santé 1h10, temps universel. Vous pouvez déjà le retrouver sur notre site rfi.fr et sur l'application Pure Radio. 24 heures en France, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière édition de l'année 2024. Je vous souhaite un très bon réveillon et une bonne année sur RFI. Plus qu'une trentaine de minutes à Paris, Alger, Berlin et Niamey. À la rédaction en chef ce soir, Dominique Bayard. Merci à Fabrice Viollet à la réalisation. Restez avec nous dans une poignée de minutes. L'édition africaine présentée par Pierre Boudias. Mais avant, on fait un tour à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
C'est avec vous, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones termine l'année sur une baisse de 30 points à 42 544 au terme d'une séance volatile. Le Nasdaq, en chutant de 176 points, revient à 19 311. L'optimisme de Wall Street, qui s'est nourri cette année, d'une part, de l'espoir de multiples baisses de taux par la Réserve fédérale, justifiée par une décélération de l'inflation et, d'autre part, par l'engouement pour l'intelligence artificielle, eh bien cet optimisme a atteint son paroxysme début novembre avec la nette victoire des Républicains aux présidentielles et aux législatives. Décembre, en revanche, s'est révélé moins favorable pour Wall Street sous l'effet de signes d'arrêt de la désinflation, arrêt qui force la Fed à faire une pause dans ses baisses de taux, dans le contexte d'une économie américaine en croissance plus forte que prévu. En outre, autre inquiétude, la future administration républicaine pourrait aggraver le déficit budgétaire, voire l'inflation, en mettant en œuvre des baisses d'impôts et des hausses de droits de douane. Alors que l'on apprend qu'en octobre, la production de pétrole par les États-Unis a atteint un nouveau record, à près de 13,5 millions de barils par jour, le baril de Light Sweet Crude s'offre aujourd'hui plus d'1% et atteint presque 72 dollars, c'est-à-dire 3% de mieux qu'il y a un an. L'euro retombe à 1,0360. L'indice Dow Jones aujourd'hui chute de 0,1%, le Nasdaq dérape de 0,9% et sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones a pratiquement grimpé de 13%, tandis que le Nasdaq cette année s'est presque offert 29% de hausse.
Ce mardi, sur RFI.
Comment faire de l'astronomie à Madagascar?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Rencontre avec les astronomes tout-terrain de l'association Aikintana, qui partagent leurs télescopes avec petits et grands dans les villages de Brousse et jusqu'au bord du canal du Mozambique. Une fête astronomique à partager ensemble au festival Mahajanga sous les étoiles.
Autour de la question, tout à l'heure à 23h10 TU, sur RFI.